Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Philippe Torreton, comédien, acteur et bien sûr cinéphile. Et quand le théâtre de Nîmes lui a proposé une carte blanche au sémaphore, il a choisi le film de Laszlo Nemes de 2015, Le fils de Saul. Et nous l'écoutons d'abord présenter le film aux spectateurs du sémaphore, puis répondre à quelques questions sur la violence de la Shoah et du monde actuel.
Bonjour d'abord, avec un micro maintenant, c'est pas... parce que j'adore les comédies. Alors, c'est un... Moi, c'est un film qui m'a vraiment marqué, bouleversé. Je ne sais pas si certaines personnes l'ont déjà vu et avaient envie de le revoir, oui. Vous aussi, deux. Et trois. Et c'est récemment est sorti de Jonathan Glazer La zone d'intérêt. Et j'ai envie de dire que vous l'avez vu aussi. Ouais, les mêmes. que c'est le. Bah c'est le pendant de ce film-là. C'est-à-dire que Jonathan Glazer se passe à l'extérieur du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. On n'y rentre jamais. Et là, j'ai envie de dire, on n'en sort jamais. On est tout le temps dedans. Et ce qui est extrêmement délicat à filmer. Certains ont dit, mais a-t-on même le droit de mettre une caméra fictionnelle dans ce décor-là, enfin, dans cette histoire-là? Et heureusement pour Nemes, le film a été adoubé par Claude Lanzmann, qui a vu un vrai grand film. Claude Lanzmann qui a fait cette immense œuvre Shoah. Et non pas que ce soit un label, voilà, d'être publicité par Lanzmann, mais quand même, ça prouve que le film est vraiment une plongée, comment dire, à la fois d'une impudeur totale et d'une extrême délicatesse. C'est-à-dire que une caméra impudique, oui, parce que dès l'instant où la caméra franchit les murs d'un camp de concentration, on est dans l'impudeur, on est dans face à l'extrême horreur, quoi. Et c'est extrêmement bien rendu par une caméra qui est à la fois totalement immergée et jamais... complaisante avec ça, jamais abusive du choc des images qu'elle va devoir enregistrer. Moi, j'ai trouvé ça, je ne sais pas vous, monsieur, mais par exemple, c'est assez incroyable d'avoir réussi ça, voilà, de ne pas se complaire dans ces images d'horreur et en même temps d'y être. Autre question que j'ai envie de vous poser, quels sont ceux qui sont allés à Auschwitz-Birkenau? Ouais, ben voilà, encore vous. Et c'est extrêmement impressionnant, même 80 ans après les faits, même transformé en musée, avec ses autobus qui se garent, etc. Je conseille à tout le monde de le faire, ce voyage-là. C'est un... Moi, je l'ai fait avec un... Voilà, le papa de l'ancienne ministre de la Santé, Buzyn, avec M. Élie Buzyn, qui y était, lui. Il était avec ses petits-enfants. Et moi, à un moment donné, c'était un voyage, on était tout un groupe, et je me suis mis un peu à l'écart, justement dans la partie Birkenau, qui est assez loin d'Auschwitz, et qui, avec ses fameux baraquements en bois, Et donc je regardais ces baraquements de l'extérieur et j'ai vu cet homme, ce petit homme, très petit, sortir avec ses petits-enfants. Il en avait deux ou trois. Nos regards se sont croisés, lui sortait du baraquement, c'était le sien. Et nos regards se croisent. Et il a fait juste... Et c'est tout. Mais ce petit soupir, là, ces joues gonflées de soupir, sortant de ces baraquements-là, ça a été bouleversant. Et ce qui m'a impressionné, c'est la qualité de jeu de cet acteur Rorik, je ne sais pas comment ça se prononce, mais vous allez le voir, enfin, c'est assez exceptionnel. Et ce qu'il fait, et cette direction d'acteur, de voir toutes ces têtes baissées. Tous ces gens avaient la tête baissée tout le temps. On ne pouvait jamais croiser le regard d'un officier, d'un simple soldat. Donc cette façon extrêmement quasi chorégraphique d'ailleurs de les voir tous ensemble, tête baissée, avancer comme ça rapidement, ne jamais s'arrêter. C'est un ballet comme ça terrible parce qu'ils font partie des Sonderkommando, donc ceux qui avaient la charge de récupérer les corps qui venaient d'être asphyxiés dans les chambres à gaz, de les emmener après au four crématoire. Et bien souvent, d'ailleurs, eux-mêmes allaient dans les chambres à gaz, en sachant pertinemment ce qui s'y passait, contrairement aux nouveaux arrivants qui, eux, débarquaient, à qui on faisait croire qu'ils allaient prendre une douche. Et de voir cette façon, cette maestria dans la mise en scène, d'avoir su orchestrer ça, cette façon rapide de faire les choses, comme parce que ces nazis savaient que tout devait se passer rapidement. Il ne pouvait pas y avoir de temps il n'y avait aucune pause entre le moment où ils descendaient, il y avait le tri. Et d'ailleurs, là, j'ai pour voisin, là où j'habite, à Fontenay-sous-Bois, à côté de Paris, un certain Richard Kolinka, qui est le batteur de téléphone, et dont la maman s'appelle Ginette Kolinka, qui a fêté dernièrement ses 99 ans. Et Ginette a été à Auschwitz avec Simone Veil, avec Marceline Loridan-Evans, et elle est la dernière, voilà, de ce groupe de femmes dernières vivantes. Et elle a consacré sur le tard, comme toutes et tous, parce qu'il faut un certain temps avant de se trouver l'essentialité de dire ça, de communier, de transmettre. Et elle a mis un certain temps donc à se déplacer. Mais à partir du moment où elle avait pris la décision, elle est allée dans tous les collèges et dans tous les lycées, même les écoles maternelles, jusqu'à il y a très peu de temps là. Mais là, même encore maintenant, elle continue, alors qu'elle a quand même beaucoup de problèmes pour marcher. Mais il y a encore 2 ans, elle y allait toute seule, elle se déplaçait toute seule. Elle allait à Nantes, elle allait à Marseille, à Tourcoing, elle prenait le train, voilà. Et depuis son petit appartement, le même qu'elle a gardé depuis l'arrestation de sa famille. Et d'ailleurs, petite parenthèse, elle me disait que cet appartement, une fois que toute sa famille était raflée, a servi pour la collaboration. Donc c'était un bureau de ces gens qui enquêtaient sur les résistants, les qui traquaient les juifs, etc. Et donc ils ont installé des bureaux, des meubles dans l'appartement qu'elle a pu récupérer en revenant miraculeusement de cet enfer, et elle a gardé les meubles. Voilà, c'est dit qu'il n'y a pas de petites économies, elle a gardé les meubles. C'était une façon de se... Elle disait aussi, une façon de se venger d'eux. C'était pas de balayer tout ça, mais de dire, ben voilà, la vie a repris ici. Vous avez beau avoir tué ma famille, mais moi j'y suis et je garde même vos meubles, comme pour vous le dire tous les jours, voilà, que je vis. Et pourquoi je parlais d'elle? Parce qu'elle commence systématiquement ses interventions en allant dans les classes, en disant quels sont ceux, celles et ceux qui ont plus de, qui n'ont pas encore 15 ans. Alors, dans beaucoup d'établissements, il y a plein de mains qui se lèvent. Eh bien, vous seriez morts. Voilà. Tous ceux qui ont levé la main seraient morts tout de suite, à peine arrivés, déchargés du wagon, un bestiau. Vous seriez morts dans les 10 minutes ou 20 minutes. Et le film montre ça aussi. cette urgence à donner la mort. Fait en sorte que rien ne s'arrête, qu'entre le moment où ils descendent et le moment où ils sont dans la chambre à gaz, voilà, que ce soit un mouvement continu. Et c'est presque insupportable, en fait. Les images qu'a réussi à faire Nemes sont absolument d'une précision. Et puis, il y a cette histoire que je ne vais pas spoiler, parce que c'est... vous allez suivre ce film, mais comme beaucoup ne l'ont pas vu, donc je ne vais pas rentrer précisément dans cette histoire. Mais cette façon qu'a ce personnage d'avoir envie de rester un être civilisé, qui va essayer de se conformer au rite et qui va comme une bouée. Ça me rappelle Charlotte Delbault, je ne sais pas si vous connaissez cette auteure qui est morte dans les années 80, qui était la secrétaire de Louis Jouvet. Et Louis Jouvet, quand les Allemands ont envahi la France, est parti avec sa troupe en Amérique du Sud. Elle est restée. Elle a fait de la résistance avec son mari, ils ont été arrêtés, son mari a été tué. Elle est allée à Auschwitz-Birkenau et ensuite Ravensbrück. Et elle racontait une anecdote que je trouve absolument incroyable. Elle a écrit aux éditions de Minuit une trilogie qui s'appelle Auschwitz et après, que je vous recommande infiniment. Parce qu'elle a osé la poésie avec ça. Comme Nemes a osé le cinéma avec ça, parce qu'après tout on pourrait dire, mais est-ce un sujet de cinéma? Moi je crois que oui, tout l'est, mais tout dépend de la façon dont c'est fait. Et elle, cette façon qu'elle avait de rester en vie, c'était de se remémorer des poèmes qu'elle avait appris. Et dans une de ses nouvelles, elle raconte qu'elle était arrivée au bout de sa mémoire. C'est-à-dire qu'elle est Elle avait réussi à se remémorer presque une cinquantaine de poèmes entiers, complets, parfois au prix d'une bataille de mémoriel pour retrouver un mot, une phrase, une rime. Et là, elle sentait qu'elle était au bout. Et elle se disait, si j'arrive au bout, je vais mourir. Et dans l'entrefait, une femme dont le travail dans les camps était de trier les vêtements de ceux qui n'était plus de ce monde, vient vers elle avec le misanthrope en français. Et elle l'échange contre une ration de pain. Alors évidemment, ses copines, quand elle a su qu'elle avait échangé sa ration de pain contre un livre, se sont toutes cotisées pour lui trancher une fine tranche de leur propre ration de pain, parce que ne pas manger cette petite ration de pain était la garantie de ne pas finir la journée vivante. Donc, elle dit que c'est le livre le plus cher du monde, en fait, qu'elle a acheté là, ce jour-là. Et grâce à cela, elle a pu continuer à apprendre. Et elle termine la nouvelle, elle s'est lancée dans le misanthrope en français. Et elle termine la nouvelle en disant, certains matins, à l'appel, j'avais le temps de me réciter au moins une fois l'intégralité de cette pièce. Qu'est-ce donc qu'avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie, mais encore dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, courez vous cacher. Mais on entend les gens avant de se fâcher, etc., etc. Jusqu'au dernier vers, 5 actes plus loin. Et ça vous donne une idée de l'appel du matin. Dans ces camps, on a le temps de se dire une pièce de Molière dans la tête par cœur, tous les vers, les uns à la suite. Dans le froid, dans le vent, la pluie, la grêle, avec celles et ceux qui tombent, qu'il faut relever. Les chiens, la peur, tout le temps. Cette nouvelle m'a vraiment bouleversé. Et sa dignité à elle, cette façon de tenir, elle, c'était la mémoire. Et lui, vous allez voir, c'est vouloir absolument s'occuper de cet enfant. Et voilà, je ne sais pas, j'ai envie de vous laisser voir le film, mais si vous avez des questions à me poser ou... En tout cas, c'est... Je vous verrai après avoir vu le film, et si, pour ceux qui n'ont pas vu la zone d'intérêt, je vous conseille vraiment, vivement de voir les deux.
Sur Radio Alliance Plus, vous avez entendu la musique du film Le Fils de Saul, musique très oppressante, et nous retrouvons Philippe Torreton pour parler donc de deux films, Le Fils de Saul et Une zone d'intérêt. Alors Philippe Torreton, merci de prendre du temps entre plusieurs occupations, c'est-à-dire la représentation d'hier soir au Théâtre de Nîmes de Lazzi, ce soir à nouveau à 20h, et entre les deux, le temps de venir au Sémaphore présenter donc le film Le Fils de Saul de Laszlo Nemes. Vous avez fait, je trouve, une très belle présentation. On sentait votre émotion. Je veux dire qu'on ne peut pas parler de ce sujet sans être ému, quel que soit le nombre d'années passées. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que cet intérêt pour la Shoah, vous l'avez toujours eu? Est-ce que c'est un professeur? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est un film qui vous a, ou un engagement politique, qui vous a fait prendre conscience de l'importance de la mémoire?
C'est une solitude, un mercredi après-midi, quand j'étais assez jeune, j'étais à l'école primaire. Ça, c'est pas que je crois, c'est que j'en étais sûr. J'étais à l'école primaire, mais je cherche la classe, je devais être en CM1, CM2.
Et donc, 10 ans, même pas 10
j'étais
ans.
J'étais tout seul, et mon père avait deux gros livres d'histoire, tout noirs. Je les ai descendus de l'étagère, je les ai regardés, et il y avait plein de photos horribles de ces camps, libérés par les Russes, libérés par les Américains, des cadavres partout. Qu'on poussait avec une pelleteuse, des tas de vêtements, des fours avec des squelettes à l'intérieur, etc., etc., etc. Et
ma mère... Il n'y avait personne à côté de vous quand vous avez vu ces
non,
images?
C'est ce que je dis,
oui. Oui, c'est ça.
J'ai refermé ces livres et je suis resté prostré dans ma chambre jusqu'à ce que ma mère arrive et je lui ai demandé ce que c'était. Et elle m'a dit « Ah, ton père ne devrait pas laisser traiter ça et tout ça ». Et depuis, ça ne m'a pas quitté, en fait. Voilà.
Ça fait partie de votre environnement culturel avec nombreuses interrogations. Comment cela est possible? Comment des humains font-ils ça à d'autres humains?
Bien sûr.
Et moi, j'ai eu le choc, en fait, et à l'époque, je me souviens, mes parents étaient très en colère parce qu'un professeur en sixième nous a passé nuit et brouillard. Et donc là, en plus, c'était en mouvement, si vous voulez. On voyait ces bulldozers ramassés. Et je pense que j'ai eu la même réaction que vous, c'est-à-dire, comment est-ce possible, alors que on n'en avait pas du tout parlé. Et je trouve qu'à une époque où l'enseignement a beaucoup de difficultés, je pense que c'est important, justement, de montrer les images, de dire, on ne parle pas de révisionnisme, hein, c'est évident que ça a existé. Et vous avez choisi, donc, en carte blanche, au sémaphore, de parler de ce film, faire le parallèle, on vous écoute hein, par rapport à la zone d'intérêt, et vous avez toujours cette même émotion donc, face à ces événements. Et par rapport au contexte politique actuel, par rapport aux guerres, par rapport à ces morts, par rapport à tous les, on peut dire le mot génocide, comment vous réagissez ? Comment votre carrière d'acteur, de comédien, de théâtre vous aide à, j'allais dire, à vivre ? C'est peut-être
quel génocide vous parlez ?
Non, je parle des génocides, tous les génocides qu'il y a eu depuis des siècles. C'est-à-dire, ça ne finira jamais, il y aura toujours à nouveau de l'homme qui se déchaîne contre d'autres hommes. Ou je pense même, sans parler de génocide, j'étais très frappée par le rapt des enfants ukrainiens par les Russes pour les soviétiser. Vous voyez, je fais un peu un parallèle, c'est-à-dire on peut ne pas faire mourir les gens, mais on peut aussi complètement leur laver le cerveau. Et bon, c'est une vaste question, je ne vous demande pas d'y répondre là, mais moi ça me conforte justement dans l'idée de la mémoire. Alors pour revenir au fils de Saul, il y a quelque chose moi qui m'a beaucoup gênée dans la zone d'intérêt, et qui justement n'existe pas dans le fils de Saul, dans la zone d'intérêt du cinéma, il n'y a pas d'odeur, mais il y a juste une scène où il trouve des cendres dans la rivière. Je trouve que le fils de Saul, justement, nous fait entrer, si c'est possible, hein, parce que comme vous le disiez, il n'y a que ceux qui sont entrés dedans qui peuvent imaginer ce que c'était. Je trouve que dans le fils de Saul, il y a presque les odeurs, on sent presque les odeurs, on est environné de cendres, et c'est toute la force, justement, du cinéma, de pouvoir restituer des odeurs, des ambiances, des atmosphères. Est-ce que vous pensez que le théâtre peut arriver à la même chose ?
Oui et non, je ne sais pas. Tout ça est très subjectif. Vous parlez de... Vous n'avez pas ressenti d'odeur dans la zone d'intérêt, mais est-ce qu'il y a une odeur à ressentir ? Le cinéma n'est pas en odorama, donc ça veut dire que c'est un travail de votre imaginaire. Voilà, et donc après, tout le monde est différent par rapport à ça. Mais de toute façon, on est dans... que ce soit au théâtre ou au cinéma ou dans n'importe quel art, on est là pour susciter, créer des images et des réflexions. Donc oui, je pense que le théâtre peut être tout aussi fort que le cinéma. C'est le récit qui compte au théâtre, c'est la façon de dire les choses. Au cinéma, c'est la façon de les montrer. Essentiellement, même s'il y a de l'écriture, et même s'il y a de l'image au théâtre, mais le théâtre est beaucoup plus fort dans l'art du récit, dans l'art de la parole. Le théâtre est un art de parole. Le cinéma est un art d'image et dans lequel il y a de la parole.
Et vous qui écrivez aussi, l'écriture, c'est surprenant ce que vous dites, parce que vous dites, je n'ai pas ressenti les odeurs dans la zone d'intérêt, alors je peux le ressentir dans le film d'Albert, d'Alain Resnais.
Ah, d'Alain Resnais.
D'Alain Resnais. Donc tout est subjectif, tout est imaginaire, et dans l'écriture, j'ai l'impression qu'on fait plus appel à l'imaginaire qu'au théâtre ou qu'au cinéma. Vous qui faites les trois, qui évoluez dans les trois domaines, c'est lié à quoi ? Que parfois notre imaginaire est plus sollicité ?
Vous voulez dire dans la littérature ?
Dans la littérature.
Oui et non, tout ça est très subjectif. Il y a des livres qui ne m'inspirent rien. Il y a des pièces de théâtre qui ne m'inspirent rien. Il y a des films qui ne m'inspirent rien, qui ne me proposent rien, qui ne s'adressent même pas à moi, à la limite, d'une certaine façon. Donc, que ce soit... Il n'y a pas un art qui aurait le privilège d'une supériorité dans l'imaginaire par rapport aux autres.
En fait, c'est celui qui le reçoit qui en fait la force.
Ça dépend de l'artiste, ça dépend de ceux qui le regardent, ça dépend de comment on le regarde aussi. Mais non, c'est moi, justement, le fait de naviguer comme ça entre le métier d'acteur, que ce soit au cinéma, que ce soit au théâtre, et d'être écrivain, me fait relativiser quand même beaucoup de choses sur... On est Moi, fondamentalement, je trouve que c'est le même métier. J'ai pas l'impression de changer de casquette. Comme dans la pièce de Molière avec le cuisinier qui est aussi le cocher. Non, je fais le même boulot. Simplement, il se décline différemment. Et je trouve que, pour moi, je prends... c'est l'art de susciter des images, des émotions, des réflexions. Et c'est... Mais il n'y a pas... Je catégorise pas les arts.
Non, mais voilà. c'est assez évident. Mais j'essayais de réagir aussi par rapport à moi, par rapport à les émotions que chacun suscite. Et j'ai été vraiment très marquée par le fait que vous avez encore cette émotion à l'état brut en présentant une nouvelle fois le fils de Saul.
Je suis un être comme ça, d'émotion. Et puis, et je trouve qu'on ne peut pas rester... uniquement dans la froideur de l'analyse par rapport à ces films-là. Ce sont des sujets tellement, tellement graves. Moi, j'ai presque hésité à le regarder, ce film, pour tout vous dire.
Oui, mais moi aussi.
Parce que ça m'affecte
C'est trop...
Ça m'affecte beaucoup.
C'est très violent. Je me souviens d'un professeur d'histoire qui nous disait aussi, elle nous avait passé un film sur l'esclavage, où on ne voyait rien. On ne voyait aucune scène dramatique, on ne voyait pas les pieds coupés, on voyait rien par rapport à d'autres films. Je pense au film de Tarantino, par exemple. Et elle m'avait dit, ça m'avait marqué... Tout ce qui est suggéré est bien plus fort que ce qui est montré. Et je trouve que dans Le Fils de Saul, on est justement entre les deux. Et c'est
mais
ce que
même
vous dites.
Ça, moi je me méfie de ces phrases-là. Mais oui, je me méfie de ces phrases-là. On peut suggérer, bien sûr, c'est...
Oui, mais il y a un voyeurisme actuel, il y a quand même une force, une violence qui...
Regardez comment le monde a été bouleversé par la photo de ce petit enfant
Sur la plage,
avec la tête dans l'eau et les pieds sur le sable. Bon, ben là, c'était la réalité brute.
Oui.
C'était pas suggéré. Et ça nous a totalement bouleversé.
Et merci à vous d'avoir pris du temps.
Merci
à vous.